C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
C'est une nouvelle qui a beaucoup fait réagir. C'est sorti dans la presse. C'est l'histoire d'un agresseur sexuel qui a sodomisé sa partenaire sans consentement. Il a été trouvé coupable. La relation était d'abord consensuelle, mais l'acte sexuel n'a pas été l'objet d'un consentement. Il a continué quand la victime voulait qu'il arrête. Et quand la police est allée l'interroger, ben, il a dit, écoutez, le sexe, c'est le sexe. Et oui, j'ai fait ça. Il a été condamné au bout d'un marathon judiciaire là, à 20 mois à purger à la maison. Ça s'est passé hier. La décision du juge David Simon a été décriée publiquement par le procureur de la Couronne au dossier, maître Alexis Dinel. Et c'est extrêmement rare qu'un procureur de la Couronne prenne position de cette façon-là. Le procureur de la Couronne, maître Dinel, a interpellé le politique directement, le fédéral. Il a dit, en ce moment, Justin Trudeau et David Lametti ont probablement des comptes à rendre aux victimes d'agressions sexuelles. Il faisait référence à un projet de loi qui a été adopté en novembre dernier, projet de loi C-5, qui abolissait des peines minimales. Donc, le juge avait la latitude pour ne pas donner de peine de prison. Il a choisi une peine à la maison. Maître René Verret, n'a aucun lien, je le précise, avec cette cause-là, mais c'est un ancien procureur de la Couronne. C'est lui qui avait obtenu une condamnation dans le deuxième procès de Guy Turcotte. Il a aussi été porte-parole du DPCP. Il est déjà désormais avocat de la Défense. Maître Verret, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de nous parler. D'abord, expliquez-nous quelle est cette nouvelle disposition de la loi qui abolit les peines minimales pour certains types de crimes.
Ben, c'est-à-dire que par rapport à certaines infractions qui autrefois n'étaient pas permises, à l'égard de certaines infractions, on permet maintenant aux juges d'imposer des peines avec sursis. Donc, d'imposer des peines qui permettent à une personne de purger la peine dans la collectivité ou chez elle. Mais autrefois, ces infractions-là étaient inadmissibles en vertu de l'article 742.1.
Ça, c'est les conservateurs, je pense, qui avaient adopté ça, là, une peine minimale.
Exact.
OK.
Exactement.
Et les libéraux.
C'est pas de minimale. C'est simplement qu'on prévoyait qu'une personne ne pouvait pas demander une peine avec sursis pour ces infractions-là.
OK. Les tribunaux aiment pas ça. Les libéraux aiment pas ça. Ça a donné lieu à une peine à purger là, à la maison. Est-ce que dans ce cas-là, ça vous a surpris comme juriste?
Ben, je ne vais pas me prononcer sur le dossier parce que je ne le connais pas. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai lu dans la presse ce matin. Mais le juge a quand même très bien motivé sa décision, expliqué pourquoi, en parlant de la réhabilitation de l'accusé, les facteurs psychologiques et plusieurs éléments qu'on a pu lire dans la décision ce matin. Je ne la connais pas, je ne connais pas le dossier, je ne vais pas me prononcer. Mais le juge, quand même, j'ai remarqué, j'ai pris note qu'il a pris beaucoup de temps pour justifier sa décision.
OK. Maître Verret, vous êtes un avocat habitué à la parole publique. Vous avez déjà commenté dans le passé des procès dans lesquels vous avez été impliqué. Par exemple, Guy Turcotte, vous avez été porte-parole au DPCP, là, l'organisme qui chapeaute les procureurs de la Couronne. Avez-vous été surpris de voir un procureur de la Couronne, Maître Dinel, sortir publiquement comme ça pour interpeller et égratigner le politique?
D'abord, je vais vous dire, moi, je le connais pas, Maître Dinel, mais je veux dire, non seulement c'est inhabituel, moi, je me rappelle pas d'avoir vu un procureur dire des choses comme celle-là, parce qu'on le sait, il doit y avoir une barrière importante, tout le monde le sait, c'est un principe fondamental en démocratie, entre le judiciaire et le politique. Alors, effectivement, le procureur n'a pas à donner son opinion personnelle, et c'est ce qu'il a fait, parce que son commentaire, il le fait en dehors de la salle d'audience, il l'a pas fait en cours, il le fait en dehors de la salle d'audience. Donc, il a donné son commentaire sur une modification législative. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça.
Parce que quand on parle de l'indépendance du système judiciaire, quand on parle du mur qui doit séparer le politique du judiciaire, ce à quoi on pense, Maître Verret, c'est des politiciens qui s'aventureraient à commenter un jugement. Dans ce cas-là, c'est le contraire. Mais est-ce qu'il avait le droit, Maître Dinel, de faire ça?
En tout cas, moi, selon moi, je vous dis, je n'ai jamais vu ça. Alors, effectivement, c'est une première pour moi. Effectivement, qu'un procureur commente une modification législative, je ne pense pas que ce soit dans le cadre du travail et des devoirs des procureurs. Et vous le dites, au même titre que les policiers ne se mêlent pas, effectivement, des affaires judiciaires, le ministre Lametti interpellé aujourd'hui a effectivement refusé, effectivement, de commenter ce dossier-là. Mais voyez, puisque ce procureur-là fait cette déclaration-là, ça a obligé le ministre à faire une déclaration à son tour. Alors que ça ne devrait pas survenir, c'est des choses comme celle-là.
Maître Verret, vous avez été dans la machine du DPCP. Comment ça a été reçu, vous pensez, par les supérieurs de Maître Dinel?
Ben, moi, à mon avis, il a dû être convoqué dans le bureau de son patron aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui s'est dit, d'après vous?
Ben, cela, je ne le sais pas, mais je veux dire, parce que c'est inhabituel. Moi, je vous le dis, Ce n'est pas le rôle du procureur de commenter ou de donner son opinion personnelle sur des modifications législatives. Le procureur est là pour appliquer la loi, appliquer le droit, et c'est comme ça. Au même titre que les juges ne le font pas non plus, on le sait. Alors, ce n'est pas le rôle d'un procureur de commenter, de donner son opinion personnelle, c'est ce qu'il a fait, sur une modification législative.
Vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maître Verret. Bonne journée.
Merci, Robert.
C'était Maître René Verret, ancien procureur de la Couronne et désormais à la Défense. Donc, c'est inhabituel. Et vous avez entendu Maître Verret. Probablement que Alexis Dinel, là, ce procureur de la Couronne, qui s'est aventuré sur un terrain quand même assez glissant, là, c'est assez inhabituel, on le dit, là. Ben, probablement qu'il s'est fait frotter les oreilles.
Patrick Lagacé, en accéléré.
16h presque 25 minutes, la Colombie-Britannique décriminalise la possession de drogue dure en petite quantité. À partir d'aujourd'hui, il est permis d'avoir sur soi moins de 2,5 grammes de certaines drogues, des opioïdes, du crack, de la cocaïne en poudre, des méthamphétamines, de l'ecstasy. Ça peut frapper l'imaginaire, ça peut choquer. C'est vu comme une façon d'endiguer les décès lié à la consommation de drogue dure. Je le souligne, c'est un projet pilote qui est mené là-bas par la province avec la collaboration du fédéral qui est maître du code criminel, comme on le sait. Dr. Brian Conway est directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver. Il travaille auprès des démunis du quartier Downtown East Side, qui est un de ces quartiers où il y a beaucoup, beaucoup de ravages liés aux drogues dures. Dr. Conway, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Écoutez, merci d'avoir accepté de nous parler. Expliquez-nous en quoi consiste ce projet pilote.
Donc, les gens qu'on interpelle et qui sont en possession de drogue dure en quantité inférieure à 2,5 grammes ne seront pas amenés en justice, mais en principe seront potentiellement inclus dans des programmes d'intervention qui pourraient éventuellement mener à une stabilisation de leurs conditions, une réduction de l'utilisation de drogue. Et c'est cela qui, éventuellement, pourrait mener à la réduction des décès.
OK. Vous dites, en principe, Dr. Conway, est-ce que c'est parce que vous avez des doutes sur le fait que, en lieu et place d'une peine de prison, d'une arrestation, il y aura bel et bien de la thérapie?
Ben, il y aura clairement l'opportunité de l'offrir. Donc, quand une personne est arrêtée, en principe, par un policier, potentiellement accompagné d'un travailleur de rue, on s'attend à ce qu'il y ait une interaction légale. Si la quantité de drogue est inférieure à 2,5 grammes, l'interaction ne sera pas légale, mais sera potentiellement formatrice. On dirait aux gens, je ne t'arrête pas, mais voici les services qui seront disponibles. De quoi as-tu besoin aujourd'hui? Puis je vais potentiellement pouvoir t'amener là. C'est là qui est vraiment le succès du programme. C'est ça qui va décider si le programme réussit ou non.
Écoutez, les gens qui nous écoutent peuvent avoir une réaction là qui serait la suivante. La drogue, c'est illégal. Pourquoi est-ce qu'on permet aux gens de s'en tirer comme ça? Qu'est-ce que vous répondez comme spécialiste de santé publique?
On ne permet pas aux gens de s'en tirer. Ça a été très bien démontré que de prendre ces gens-là, de les criminaliser, de les amener en cour, ça ne réduit pas l'ampleur du problème. La crise des opioïdes, ça aide pas les individus. Donc, cette stratégie-là a échoué. On ne légalise pas les drogues. Ce que l'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir une politique novatrice qui va nous aider finalement à venir à bout de la crise des opioïdes. C'est pas eux autres puis nous autres, c'est nous autres puis nous autres. C'est un problème sociétal. Essayons de le résoudre ensemble.
Dr. Conway, sur quoi on se base pour penser que c'est une bonne approche qui va donner des résultats?
Au Portugal, ça a très bien fonctionné, mais ça a été plus directement jumelé à une offre de service. Donc, en principe, la question de ne pas criminaliser l'utilisation de petites quantités de drogue pour utilisation personnelle. Encore une fois, la revente et tout ça, ça demeure illégal. Donc, pour utilisation personnelle, on prend l'opportunité d'interagir avec cet individu-là pour essayer de comprendre leurs enjeux et de commencer à les adresser. Au Portugal, ça a été relié de façon plus directe que ce l'est dans le programme ici sur la côte ouest, mais on espère que ça va fonctionner un peu de la même manière.
Dites-moi, quels seront les paramètres qui vont dire si c'est un succès ou pas ce projet pilote? Quelles données, quelles statistiques vont être scrutées à la loupe?
Donc, je pense que de scruter le nombre de décès au cours des 6 à 12 prochains mois, ça, probablement que ça ne sera malheureusement pas réduit. Je pense que de mesurer, de compter le nombre d'individus qui vont être engagés dans des systèmes de soins, le nombre d'appels d'urgence pour des surdoses dans les quartiers de personnes démunies et l'intégration des gens dans des systèmes de soins, je pense que ça va être les indicateurs de rendement à court et à moyen terme sur lesquels on va se fier.
En terminant, Dr Conway, expliquez s'il vous plaît aux gens qui nous écoutent à quel point la crise des opioïdes est vraiment importante, gravissime en Colombie-Britannique.
Mais écoutez, on a vécu la pandémie de la COVID, on la vit encore jusqu'à un certain point. Il y a eu deux fois plus de décès ici en Colombie-Britannique dû aux surdoses que dû à la COVID. Il y a 6 à 7 décès par jour. Les policiers, les infirmiers sont appelés 2 fois à l'heure dans le quartier du Downtown Eastside pour composer avec un surdosage. Souvent, la même personne 2 ou 3 fois dans une journée, ça me crève le cœur.
Qu'est-ce qui fait que Vancouver est un pôle d'attraction pour les personnes qui ont des problèmes de consommation de type opioïdes, crack, etc.? Ça existe ici au Québec, mais c'est vraiment particulier depuis longtemps en Colombie-Britannique.
Les gens sont attirés à la côte ouest ici à cause du climat et de la perception du climat social qui est un peu plus permissif aux populations vulnérables. C'est la porte d'entrée souvent des nouveaux opioïdes dans l'Amérique du Nord, et on a notre quartier du Downtown Eastside qui est un peu unique au Canada, qui concentre et amplifie le problème.
Très intéressant. Merci beaucoup, Dr Conway, d'avoir accepté de nous parler.
Un grand plaisir. À la prochaine.
Bonne journée à vous. C'est Dr Brian Conway, qui est directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver. Il travaille auprès des démunis de ce quartier chaud, quartier où il y a énormément de gens qui ont des problèmes de dépendance, qu'on appelle le Downtown East Side. La journaliste Isabelle Haché et le photojournaliste Martin Tremblay, tous deux de La Presse, reviennent d'un séjour de 2 semaines en Ukraine. Je suis très content de les accueillir en studio. Salut vous deux.
Salut Patrick.
D'abord, c'était votre 2e ou 3e voyage?
Notre 2e.
2e.
Oui.
Qu'est-ce qui a changé entre le 1er et le 2e?
Ben, en fait, je te dirais que ce qui a changé, nous, quand on est allé la première fois, c'était vraiment au tout début de la guerre. Puis je pense que ce qui a changé, c'est peut-être un peu l'ambiance, l'humeur des gens. Parce que quand on est arrivé là-bas, on savait pas ce qui allait se passer. L'armée russe bougeait très rapidement. En tout cas, plus rapidement, ils s'en allaient vers Kiev, la capitale. Donc, les gens avaient très, très, très peur. Alors que maintenant, je te dirais pas que les gens ont plus peur, sauf qu'il y a une habitude quand même qui s'est installée. Puis les lignes de front sont quand même plus ou moins stables. Donc, oui, on pense pas que l'armée...
Puis circonscrite dans certains...
l'Est, dans le Sud,
c'est ça, dans certaines régions du pays.
Oui.
Donc, si je comprends bien, Isabelle, les Ukrainiens se sont habitués à la guerre. Ils ont comme développé une routine.
Ben, dans les villes où on était parce que nous on s'est beaucoup déplacé, oui, là, oui, en 2 semaines, puis on a été dans les villes où il y avait des combats, des tirs d'artillerie, des mortiers et tout ça, là évidemment là c'était l'enfer sur terre. Mais dans les villes un peu plus éloignées des lignes de front, je te dirais qu'effectivement on a vu des Ukrainiens faire leur vie comme vous et moi, aller au restaurant, s'amuser. On a même nous-mêmes pris une fois ou deux un petit verre de vin le soir. Tu sais, c'était pas... je pense que c'est pas humain de toujours se sentir sur le qui-vive. Puis même même quand t'es en guerre, quand tu vis dans un pays en guerre, je pense qu'à un moment donné, tu t'habitues effectivement.
Martin, qui était là avec Isabelle, et t'es pas passif quand t'es là avec ta caméra, t'es en reportage toi aussi. J'ai vu plusieurs de tes photos qui sont extrêmement frappantes comme d'habitude. L'image qui t'a le plus frappé de l'Ukraine, c'est quoi?
Moi, c'est définitivement le... Ben, il y a beaucoup de choses qui est frappante, la détresse des gens qui vivent sous les bombes, etc. Mais le cimetière d'Izium, là où 451 Ukrainiens ont été enterrés après avoir été, pour plusieurs, torturés et tués par l'armée russe. Quand je foulais cet endroit-là, qui était magnifique, qui était une forêt de pins, quasiment enchanteresse, mais quand on regardait le sol... C'était le seul meurtri de l'Ukraine qu'on voyait, tous ces trous-là alignés. Moi, c'est vraiment venu me chercher, puis je te dis, C'est une des premières fois où j'ai vraiment pleuré en travaillant. Là, je trouvais ça un crime incroyable. T'sais, c'est des crimes de guerre que je pensais qu'en 2022, qu'on allait pas vivre encore. C'est probablement ce moment, cette image-là qui va me rester le plus en tête.
Et Izium, c'est une ville qui a été occupée par les Russes. Et Isabelle, tu as écrit un texte où tu parles d'un type qui écrivait des livres pour enfants qui s'appelle mm-hmm. Volodymyr Vakulenko, qui tenait un journal. Mm-hmm. Et tu as eu accès à son journal et tu as pu lire, si j'ai bien compris, tu as pu lire les mots de ce gars-là qui a été assassiné.
Il a été assassiné dans les tout premiers jours, en fait, l'armée russe est entrée au début de la guerre à Izium. Et lui, il a été trahi, en fait, il y a eu beaucoup de collabos dans son village.
Il y a beaucoup de gens
des pro-russes, effectivement, des gens qui collaboraient avec l'occupant russe et qui a dit, cette personne-là est très nationaliste et très pro-ukrainienne. Donc, lui, quelques semaines après le début de l'occupation d'Izium, il a été arrêté, il a été assassiné. On a interviewé sa mère aussi, puis c'était vraiment super touchant, parce que sa mère, elle nous disait, moi, je l'ai cherché pendant des mois, mon fils, puis comme c'était une ville sous occupation, ça s'est tout perdu dans le grand brouillard de la guerre. Il y a personne qui répondait à ses questions, personne lui disait où était son fils. Le corps de son fils, elle l'a su par la suite, a traîné pendant plus d'un mois sur le bord d'une route. Il a été enterré dans cette forêt de pins à Izium. Puis elle l'a su seulement après la libération. Puis même quand ils ont exhumé le corps avec ses documents, son passeport et tout, elle voulait pas y croire. Mais finalement, ils ont fait un test d'ADN et c'était effectivement lui, son fils, qui était enterré dans la forêt.
Puis, suite à ça, on a visité aussi un des centres de torture où on s'est présenté, Isabelle et moi, avec un policier et c'était resté intact. Et dans le sous-sol qui servait de salle de tir qui a été transformée en salle de torture et d'interrogatoire. La chaîne au plafond pour accrocher les gens, les masques à gaz qui servent à torturer les gens, les fils électriques qui servent à les fouetter. Je sais que c'est quand même dur à entendre, mais tout était resté intact et c'était assez frappant, là, avec des douilles au sol. Donc, plusieurs de ces 451 personnes qui ont été retrouvées dans la forêt de pins à Izium sont passées par cet ancien poste de police qui servait à les torturer.
Comment vous convainquez les gens de parler quand vous arrivez dans une ville comme Izium, par exemple? Puis comment, Martin, on les convainc de se laisser prendre en photo? C'est pas évident.
Ben, je pense qu'ils ont beaucoup envie de parler, en fait, ces gens-là. Ils ont beaucoup envie, j'irais pas jusqu'à dire que c'est de la propagande. Je pense qu'ils ont besoin de dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est important pour nous de le documenter aussi. Mais dans la guerre, il y a une guerre d'information aussi. Donc, c'est sûr que on est accueillis un peu avec les bras ouverts par les autorités. Ils nous disent oui, venez visiter, venez, on va vous montrer ce qui s'est passé. On va vous trouver, c'est même eux qui nous ont trouvé des gens qui avaient été torturés, là, qui sont allés les chercher pour nous. Donc, ils nous ont accompagnés aussi même de Kharkiv jusqu'à Izium. Donc, il y avait beaucoup... Non, effectivement, c'était plutôt facile, en fait, pour nous. Puis, par la suite, on leur a parlé, on les a remerciés et tout, puis ils nous disaient non, mais merci à vous d'avoir le courage de venir ici puis de raconter notre histoire. Donc, une fois qu'on est sur le terrain, je pense que la difficulté, c'est de se rendre sur le terrain, mais oui. Une fois qu'on est là, les gens sont contents puis ils ont besoin d'en parler.
Martin.
Ils sont très conscients des crimes de guerre qui ont été commis et qui sont commis encore actuellement. Puis ils savent qu'il faut les documenter, les communiquer, puis ils comprennent notre rôle. Puis ça, à tous les niveaux, c'est pas juste les autorités, que ça soit un simple citoyen, ils veulent communiquer. Puis les Canadiens, on est très bien, très, très, très bien perçus.
Pourquoi?
Parce qu'ils sont informés des efforts, des dons. Ils savent tout plus que nous. Là, vous avez donné tant de tels véhicules que je savais même pas, là, le Rochelle, puis tant. Ils sont au courant de tout. Puis, ils sont conscients que l'effort que le peuple canadien fait pour les aider. Puis, ils ont vraiment un sentiment de pour Isabelle et moi, c'est leur façon de redonner, c'est de nous aider.
Parlez-moi, juste avant d'aller plus loin, on est avec Isabelle Haché et Martin Tremblay de La Presse qui reviennent d'Ukraine, des reportages terrain très humains. Parlez-moi, vous êtes allé parlé à un homme qui a sauvé des enfants parce que les Russes kidnappent des enfants là-bas et les envoient en Russie où ils sont russifiés.
Oui, ben c'est des transferts, ce qu'ils appellent des transferts forcés. Les Russes, évidemment, vont dire que c'est pour la sécurité de ces enfants-là qu'ils mettent sur des autobus puis qu'ils envoient en Russie ou dans les territoires occupés, là, ou dans, en Crimée, etc. Mais les Ukrainiens, eux, voient ça de façon complètement différente, évidemment, parce que ces enfants-là, ils ont, en fait, Vladimir Poutine a signé un décret au mois de mai qui fait en sorte qu'on peut les Russes, les couples russes peuvent les adopter en une journée. Ça prend une journée, puis c'est des enfants russes. Ils peuvent changer leur nom, ils peuvent changer même leur lieu de naissance, ils peuvent changer leur date de naissance. Donc, c'est une réalité vraiment absolument troublante. Selon les Ukrainiens, il y a à peu près 13 000 enfants qui ont été transférés de force comme ça en Russie.
Kidnappés,
enlevés. Mais c'est difficile à documenter pour moi parce que ces enfants-là sont plus là. Ils n'ont pas de parents. Il y a, tu sais, par exemple, on est allé dans un foyer d'accueil où il n'y avait plus personne. Tout était fermé. Donc, c'est un petit peu difficile de faire des entrevues. Donc, la façon dont je l'ai tourné, en fait, c'est que je suis allée voir des gens qui ont pu sauver certains enfants. Donc, ils ont vraiment caché. Ils les ont pris chez eux. Ils ont fait semblant que c'était leur neveu, leur nièce, pour les voisins un petit peu trop curieux. Donc, ils ont vraiment risqué leur vie pour cacher ces enfants-là.
Parce que quoi? Comment ça fonctionne? Les Russes, quand ils voient des enfants orphelins, c'est là qu'ils sont kidnappés, c'est ça?
Ils vont les chercher. Ils appellent ça des opérations de sauvetage. En fait, c'était à Kherson, c'est... Je pense qu'ils anticipaient probablement leur retrait de la ville. Là, c'était quelques semaines seulement avant qu'ils se retirent carrément de Kherson. Ils ont quand même occupé cette ville-là pendant 8 mois. Ils sont allés systématiquement. Ils demandaient des listes d'enfants à évacuer. Ils sont allés dans tous les foyers d'accueil, dans tout. Ils sont allés même dans les hôpitaux. Puis ils allaient chercher les enfants qui pourraient évacuer vers la Crimée. Donc ils sont tous partis en Crimée. Puis à partir de la Crimée, après ça, il y a comme une espèce de tri qui se fait. Puis il y a des enfants qui sont envoyés en Russie. Il y en a même, on nous a dit, qui étaient envoyés en Tchétchénie, dans des camps de rééducation. Ceux qui sont un peu plus récalcitrants, qui sont pro-Ukraine, ils vont en Tchétchénie. Puis au bout de quelques semaines, ils chantent leur amour pour la Russie.
C'est dégoûtant.
C'est affreux. C'est terrible.
Martin, quand vous êtes là-bas en reportage, à quoi ça ressemble une journée?
C'est des très, très longues journées. On dîne pas. Et le décalage horaire nous aide, mais nous nuit pour faire des plus grosses journées parce qu'on peut faire une journée complète sur le terrain.
Quand vous finissez votre journée, il est 6 heures à Montréal.
Exact.
Fait que là, vous vous dites, ah, on a encore 6 heures avant d'envoyer notre matériel.
Exactement. Mm-hmm. Et Isabelle, elle est de ça jusqu'en milieu de la nuit. Mais c'est des très grosses journées. La route est longue. La route est difficile quand on est justement plus près des zones de combat. Si on parle, mettons, nous, on est allé à Bakhmout, qui est une énorme bataille.
Oui. Et vous avez entendu les mitraillettes, là. Vous entendiez les
c'est
les
constant,
bombes,
là. Ouais. C'est constant. C'est aussi, on était au cœur aussi du champ de bataille. C'est très dangereux. Moi, je suis vraiment, c'était la situation la plus dangereuse que j'ai vécue, là, évidemment.
Mais dans ce voyage-là ou en général?
En général. Okay. Oh, oui.
Pourquoi?
Oh, c'est parce qu'il y a des obus qui sont constamment lancé de part et d'autre. Donc, tu peux avoir un obus qui tombe près de toi en tout temps et les dommages causés par un obus, c'est 50 mètres, t'es mort. Là, c'est le shrapnel.
Les morceaux de métal.
Les morceaux de métal deviennent comme des lames de rasoir. C'est extrêmement c'est dangereux. On a vu aussi, les villes sont détruites. On voit les dommages, puis c'est quand même stressant de travailler dans ces zones-là, puis l'information, on l'a pas, parce que, évidemment, ça se déroule sous nos yeux, puis les deux armées communiquent pas leur position. Et dernière journée où on était là, l'armée russe était très près de la ville, et on pouvait entendre et voir les combats, ce qui était très proche.
Isabelle, en terminant, quand des journalistes comme vous deux allez sur le terrain là-bas, vous êtes aidés par ce qu'on appelle des fixers.
Mm-hmm.
C'est dans le fond des guides, souvent des journalistes locaux. Explique aux gens à quel point c'est important d'avoir des yeux, des oreilles comme ça.
Ben, c'est absolument crucial. Nous, on n'aurait pas pu travailler sans un fixer. Celui-là, celui que j'avais trouvé, était pas journaliste, était plutôt étudiant en sociologie. Il avait étudié en sociologie. Et puis, il était... en fait, moi, je pense que le plus important, c'est qu'il parle la langue. Moi, je parle pas ukrainien. Donc, déjà, là, sans lui... j'ai pas de contact avec les gens. La plupart des gens ne parlent pas anglais. Je pense que la très, très grande majorité ouais. des gens qu'on a rencontrés, même les gens éduqués qu'on a rencontrés là-bas, parlaient pas anglais. Je pense que les gens qui parlent anglais ont peut-être déjà fui le pays. Mmh. Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'il y avait une voiture, puis que c'est lui qui nous conduisait un peu partout. Donc, il a vraiment travaillé extrêmement fort, notre pauvre fixeur.
Ouais, il nous aide. Même moi, j'ai réalisé une photo, je suis très fier. C'est lui qui me dit, as-tu vu la lumière? Et tu sais, il va nous aider à tous les points de vue, avoir des entrevues, la route, à obtenir des accès. Tu sais, on fait un travail, mais sans... nos fixeurs, on
serait complètement paralysé.
Exactement, merci. Ouais. Ouais. Mm.
Allez-vous retourner?
Ben oui, certainement.
Merci à vous deux. Des super reportages, des super photos.
Merci,
c'était
Patrick.
Isabelle Haché, merci. Martin Tremblay de La Presse. Vous pouvez lire leur reportage, les reportages d'Isabelle, voir les photos magnifiques aussi de Martin Tremblay. Ben, le but, évidemment, si vous vous demandez pourquoi un journal du bout du monde comme La Presse, puis il y en a d'autres, envoie des gens là-bas. Ben, Isabelle le dit, Martin aussi, il faut être témoin de ce qui s'est passé. C'est important de raconter ce qui se passe là-bas.
Patrick Lagacé en accéléré.
Maude Goyer est là pour sa chronique. On va parler d'intelligence artificielle, Maude.
Oui, tellement intéressant. Je suis tombée là-dessus ce week-end. Moi, je n'avais pas entendu parler encore. C'est mon garçon de 16 ans, qui ne porte pas de manteau d'hiver, lui, non,
oui.
D'ailleurs. Qui m'a parlé de ChatGPT. Il m'a dit, maman, tu connais pas ça? Ben, voyons donc. Donc, ChatGPT, c'est une application d'intelligence artificielle qui permet de discuter avec un robot.
Oui.
De façon naturelle. Donc, il peut répondre à toutes nos questions puis à toutes nos requêtes. Ça peut être vraiment n'importe quoi.
Mieux que Siri et que OK Google?
Oui, on est ailleurs. Okay. On est ailleurs. Alors, donc, l'adresse pour rejoindre, pour aller voir ça, là, c'est chat.openai.com. Donc, okay. chat.openai.com. Faut s'inscrire. On envoie quoi? C'est très, très rapide pour l'utiliser. Aujourd'hui, le site est en surcharge. J'étais incapable de répondre à mes demandes. Pourtant, j'en avais. Et sa propre définition de ChatGPT, quand je lui demande qui es-tu, que fais-tu, elle se décrit elle-même comme une application d'intelligence artificielle qui permet de discuter avec un robot de manière naturelle, parlant 50 langues. Et ce qui est différent d'avec Google, par exemple, c'est que ChatGPT ne va pas citer des sources, va donner des réponses complètes, denses, riches et détaillées. Alors, on peut vraiment demander n'importe quoi. Puis c'est pour ça que c'est controversé.
J'ai vu, là, par exemple, là, je sais pas moi, des sortes de dissertations universitaires qui sont faites via l'application. J'ai même vu des imitations de chroniqueurs. Puis c'était assez réel.
Oui, exactement. Donc, si tu peux lui donner un style. Donc, tu n'as pas juste à poser la question, tu peux aussi demander un style. Par exemple, si je lui demande, fais-moi un poème à la façon Fred Pellerin okay. sur le pont Jacques-Cartier de Montréal, en 3 secondes, il va me sortir quelque chose
ah,
et
ouais.
ça se ressemble. Lettre de motivation, recherche sur des restaurants. Je lui ai demandé aussi des skis alpins pour mon garçon. Je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, avec un design original en bas de tel prix à Montréal. 3 secondes, il me donne les sortes, il m'envoie des photos.
Hein?
Oui.
OK.
Oui. Non, c'est assez impressionnant.
OK, c'est pour ça, Maude, j'imagine, quand j'ai vu circuler ça depuis quelques semaines, là, il semble que ce soit un potentiel concurrent pour Google.
Ah, c'est mieux que Google. C'est vraiment,
ah ouais.
on s'en va là. C'est que là, il est encore, en fait, d'un point de vue scientifique, j'ai parlé avec un professeur de l'Université de Montréal, Yoshua Bengio, qui est aussi directeur scientifique ouais. de MILA, là, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Puis il me disait, dans le fond, les scientifiques, ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Donc, c'est pas si nouveau. Ce qui est nouveau, ce que OpenAI a fait, la firme de San Francisco, qui a battu, en fait, tout le monde à la course à ça,
ouais.
c'est de le rendre accessible au public de façon facile. Et c'est donc, pour le moment, c'est pas encore très joli. L'application est pas belle. Ils l'essaient gratuitement. Mais ça s'en vient. Puis quand ça va arriver encore plus que ça, je veux dire, ça va être fou. En ce moment...
Ça prend son info où, cette histoire-là? Et partout?
Dans Google,
oui.
j'imagine?
Non, ben en fait, c'est que ça recense tous les textes. La différence de ChatGPT, c'est que ça, c'est vraiment avec le langage. Donc, on ne va pas citer seulement des sources puis avec des mots-clés. Puis après ça, tu vas être pogné pour aller trouver l'information
dans
les pages.
On va faire la mise en forme.
Exactement. Donc, on a vraiment l'impression de parler avec un robot virtuel, avec quelqu'un. Puis j'aimerais ça me mettre en contexte un peu avec... j'ai une clip là, de Joshua Benjo que j'aimerais vous présenter parce qu'il m'a expliqué pourquoi c'est important puis pourquoi il nous met un peu le contexte, en fait.
Ils ont fait un bon travail. Ils ont... C'est quelque chose de très impressionnant d'un point de vue de la qualité de ce qui en ressort. Et ça fait en sorte que tout d'un coup, il y a une prise de conscience que l'intelligence artificielle progresse à un point qui peut faire peur ou qui peut être très, très excitant pour ceux qui pensent à des applications utiles.
Il me disait en fait aussi que c'était comme le principe de la goutte d'eau. Ça fait longtemps qu'il y a des géants comme Microsoft, Google, Meta qui travaillent là-dessus. Mm-hmm. Elon Musk aussi est derrière la firme OpenAI qui est à San Francisco. Et là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire qu'enfin, ça a été mis à jour. C'est nouveau, hein? C'est depuis début décembre. Et ça a atteint le 1 million d'utilisateurs après 5 jours. Pour te donner un comparatif, Netflix, ça a pris 3 ans, puis Instagram, ça a pris 3 mois.
Est-ce qu'on sait les applications concrètes qu'une application du genre pourrait développer?
Bien, en fait, là, ce qui crie au scandale en ce moment, ce sont les enseignants, le milieu de l'éducation et les programmeurs, et bientôt les journalistes aussi, parce que ça reproduit très, très bien le travail. Donc, si un étudiant, par exemple, tu disais tantôt, fait une dissertation, un essai à l'université sur un sujet très, très précis, ChatGPT peut le faire en quelques secondes. Par contre, le professeur Benjo me disait aussi qu'il y a déjà des logiciels, des logiciels qui sont en train d'être développés pour déceler quand est-ce qu'on a affaire à une intelligence artificielle. Donc, c'est les avantages, c'est incroyable. Tu sais, je te parlais de lettres de motivation, de dissertation, mais aussi des réponses médicales, du codage et des équations mathématiques. Et le danger, entre guillemets, de cette nouvelle arrivée-là, technologie-là, c'est qu'un peu comme l'arrivée de la calculatrice, me disait le professeur Bellio, ben on a arrêté un peu de faire des calculs mentaux à partir du moment où on avait une calculatrice. Est-ce que ChatGPT va faire ça? Oui, un peu. Donc, il y aura vraiment un avant et un après. C'est ce qu'elle me disait, un peu comme Google. C'est quoi les... Je me posais la question, c'est quelles sont les dérives possibles, par exemple, d'un point de vue éthique. C'est qui, si, par exemple, donne une réponse médicale à quelqu'un, qui va être responsable si la personne se fie vraiment là-dessus? Donc, j'ai posé cette question-là au professeur Benjo. Voici sa réponse.
Moi, ce qui me fait plus peur, puis je suis pas le seul à avoir cette réflexion-là, c'est que ce soit utilisé pour des raisons nuisibles à la société, à la démocratie, aux droits humains. On a de la difficulté à faire la différence, est-ce que ça vient d'un être humain ou si c'est un robot qui nous parle, parce que ça a l'air tellement naturel, c'est là qu'on peut se faire prendre. Puis il va y avoir des fraudes, par exemple. Il va y avoir des fausses nouvelles. Il va y avoir de la manipulation psychologique, potentiellement.
Ajoute ça avec les deepfakes. Tu sais, il y a des images vidéo qui circulent, qui ont l'air véridiques, qui ne le sont pas, qui ont été créées toutes pièces. Puis ça... Faut vraiment avoir l'œil aiguisé pour détecter le subterfuge.
Et la voix, vous savez qu'ils sont capables de dire maintenant qu'en 3 secondes, j'écoute ta voix 3 secondes, le logiciel le prend et peuvent tenir une conversation avec les bons accents.
Oui, c'est ça.
Parenthèse, Maud et MC, quand les astronautes, les premiers sont allés sur la Lune, le président des États-Unis, Nixon, avait un texte qui était prêt au cas où les deux astronautes auraient été pris là-bas. Mm-hmm. Et j'ai vu une vidéo en fin de semaine. Le texte est connu, OK? Ça, c'est pas un secret. Mais il y a quelqu'un qui a pris la voix de Nixon et qui a fait lire le texte, évidemment, par une machine. Mais imagine, tu mets ça, plus les images, plus le pouvoir de recherche et de rédaction, c'est l'ère des robots qui s'en vient.
J'ai confiance je pense, après avoir fait toutes mes recherches, qu'on va développer des trucs, des logiciels, des applications qui vont nous permettre de mieux détecter, mais c'est pas gagné d'avance. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Par exemple, le réseau scolaire public de la ville de New York a banni déjà ChatGPT. L'Institut d'études de politique de Paris de banni aussi. Il y a beaucoup de sites de développeurs informatiques comme des forums de questions pour répondre où ça a été banni. Donc, tout ça, au nom de l'honnêteté intellectuelle, en fait. Et il y a un média qui s'est déjà affiché comme quoi qu'ils vont utiliser ChatGPT, c'est BuzzFeed. Donc, BuzzFeed, c'est quand même un média électronique international qui a dit, nous, on va l'utiliser, puis on va créer du contenu à moindre valeur journalistique. Là, j'ai comme eu un petit frisson quand j'ai entendu, quand j'ai lu ça. Mais c'est une réalité.
Cet article a été écrit par une machine, et mais c'est pas sûr.
Je te dis, un jour, tu vas pouvoir faire tes chroniques à distance, puis c'est Chat Maude Goyer qui va le faire.
Mais j'ai demandé hein, à ChatGPT s'il te connaissait, puis on dit que tu étais un des journalistes les plus influents du Québec.
Ah, okay.
Il a cité, wow. Les médias
on
où
voit bien
écrit.
Que c'est n'importe quoi. Ça.
On voit que... C'est pas juste artificiel, cette intelligence.
J'ai demandé Fake MC news. Gilles et Catherine Beauchamp. Non, il a dit, il a pas assez d'informations. Par contre, il a dit MC Gilles, ça me semble un nom d'emprunt. Donc, on sent quand même.
Je suis quand même contente de savoir qu'on a une notoriété similaire cette machine.
Pied d'égalité.
On sait où se situer.
On a la parité mais les gens sont, web.
Et les gens sont pas fâchés sur nous là-dessus. Je l'aille pas, finalement.
Et moi, je lui ai demandé quel sujet je devrais couvrir. Il m'a sorti des généralités. Alors là, j'ai nommé des médias où je travaillais. Puis là, sachant ça, quel sujet je devrais aborder, société? Et il m'a sorti des bonnes affaires.
Comme quoi?
L'astrologie? Ben,
non, mais il m'a parlé des inégalités, des minorités, des droits. Mais tu sais, c'était pas si précis, mais quand même, j'étais quand même assez impressionnée.
Il te connaît
un peu. Il t'a pas suggéré Canadien?
Et mais je connais mes joueurs. Mais j'ai demandé aussi plus tard qui est Maude Goyer. Puis il est capable de faire un suivi sur la conversation. Il m'a dit, ben Maude Goyer, c'est vous êtes nommé en début de conversation. Fait que ça fait un suivi. Puis j'ai demandé aussi s'il était amoureux. Donc il y a un sentiment de d'empathie. Il va dire, est-ce que vous vous sentez seul? Pourquoi vous me posez cette question là? Je ne suis qu'une machine, je ne suis qu'un robot.
Il y avait pas un film avec Scarlett Johansson où le gars tombait en amour avec la série du film là?
Oui, c'est vieux.
C'est un peu ça.
Ben c'est un peu ça. Mais est-ce que ça sent bien? Est-ce qu'on va être prêt? Parce que là, ça c'est la version 3.5.
Okay.
Travaille encore là-dessus. Tout le monde, il y a une course aussi, là, c'est pas fini. Est-ce qu'on est prêt pour la prochaine version parce que ce n'est que le début? Donc, ChatGPT, allez voir ça.
Merci, Maude. Écoute, c'est un monde un peu effrayant, mais fascinant. On est dans un film de science-fiction. Merci beaucoup.
Plaisir.
T'es pas là la semaine prochaine, je pense.
Ben non, je m'en vais en Floride.
Tout le monde s'en va en Floride.
Hey, on va-tu en oui. Floride?
On va en Floride.
On va animer ça au téléphone.
Je suis entièrement d'accord.
Je vais penser à vous.
Maude Goyer, vous allez en Floride.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.